Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, la question que vous venez de faire, ce que bon, vous a distribué cette semaine, c'était la Bible, peut-on y croire encore aujourd'hui? Est-ce que la Bible est toujours crédible dans le monde dans lequel nous vivons? Une autre question, on aurait pu la poser différemment, est-ce qu'on peut encore se fier à la Bible aujourd'hui? Une autre question encore, est-ce que la Bible prétend être vraiment ce qu'elle est, c'est-à-dire la parole de Dieu? Quelle opinion vous avez sur la Bible? Quelle est l'opinion que vous aviez quand vous êtes entré ici sur la Bible? On entend souvent les gens dire, nous vivons à une autre époque, les temps ont changé, la Bible est un vieux livre dépassé. Chers amis, si les temps ont changé, le cœur de l'homme, lui, n'a pas changé. Et l'amour de Dieu n'a pas changé aussi. L'amour que Dieu porte pour l'homme n'a pas changé. J'aimerais vous donner 5 raisons pour lesquelles je crois que la Bible est toujours d'actualité aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais partager avec vous 5 raisons pour lesquelles je crois que la Bible est la parole de Dieu et 5 raisons pour lesquelles vous pouvez savoir que la Bible est la parole de Dieu. Je vais me limiter à 5 parce que j'ai plus d'autres raisons, mais je vais me limiter à 5. Première raison que la Bible est la parole de Dieu, si elle n'est pas un traité scientifique, et elle ne l'est pas, quand elle parle de science, elle le fait de façon magistrale. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Le livre de Job, qui est considéré comme un des plus vieux livres de la Bible. Dans ce livre, eh bien, on peut lire ce que Job a dit en parlant de Dieu. Il dit « Il étend le septentrion sur le vide et suspend la terre sur le néant. » Et en ce qui concerne l'astronomie, il faut penser que si le livre de Job est considéré comme étant un des plus vieux livres de la Bible, eh bien, ça fait quelques milliers d'années. Eh bien, en ce qui concerne l'astronomie, Job ne devait connaître que ce que les astronomes de son temps enseignaient. Et écoutez ce qu'on enseignait à ce moment-là. C'est-à-dire que la Terre reposait sur le dos d'un gigantesque éléphant, lequel reposait sur une tortue géante qui nageait dans une grande mer. Quant à la mer, personne ne disait sur quoi elle reposait. Les Hindous avaient leur définition aussi. Les Grecs aussi avaient leur définition. Mais la question qu'on peut se poser, comment Job, qui partageait certainement les erreurs de son temps, a-t-il pu écrire, à juste titre, que le septentrion était étendu sur le vide et la terre suspendue sur le néant? Comment a-t-il pu? Des notions impensables pour un homme de son époque. Tout simplement parce que celui qui a inspiré ces paroles à Job, lui, le savait. Avant même qu'Isaac Newton ne découvre au XVIIe siècle la loi sur la gravitation universelle, on trouvait ceci écrit dans le même livre, dans le livre de Job. Pourrais-tu maintenir les Pléiades ensemble, dénouer les cordes qui retiennent Orion, faire apparaître à temps les signes du zodiaque, conduire la grande ours avec tous ses petits? Sais-tu à quelle loi le ciel doit obéir? Connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? Comment Job pouvait-il encore une fois, affirmer de telles choses à son époque, dont il ne pouvait avoir aucune connaissance, mais qui était juste? Sinon, que sous l'inspiration du Créateur de l'univers et des lois qui les régissent. Isaïe parle que c'est l'Éternel qui siège au-dessus de la terre. Et l'auteur des Proverbes parle du globe de la terre. Isaïe parle d'un cercle, et l'auteur des Proverbes parle du globe de la terre. Il est clair que si les gens avaient lu la Bible à l'époque de Galilée, on ne lui aurait sûrement pas fait ce fameux procès d'hérésie que l'on connaît. 150 ans avant Jésus-Christ, l'astronome Hipparque a commencé à étudier les étoiles pour cartographier les cieux et numéroter les étoiles. Il a compté les étoiles. C'est pas facile de compter les étoiles. Dans cette époque-là, avec ses yeux, on voit moins qu'il y en a. Hein? Il a compté les étoiles une par une et il en est venu à la conclusion qu'il y avait 1022 étoiles. Il faudrait pas qu'il revienne aujourd'hui dans la technique qu'on a parce qu'il verrait qu'il a perdu son temps, n'est-ce pas? C'était le nombre d'étoiles que la science avait répertorié 150 ans avant Jésus-Christ. 1300 ans plus tard, un jeune étudiant en médecine nommé Galilée inventa son premier télescope. Il le pointa vers le ciel et ce qu'il vit le fit sursauter, car au-delà des étoiles visibles à l'œil nu, il a découvert qu'il y avait plus d'étoiles qu'on pouvait le penser, et qu'au-delà de celles-ci, il y avait des millions d'étoiles qu'il n'avait pas encore été identifiées. Aujourd'hui, chers amis, avec les télescopes super sophistiqués, nous scrutons des royaumes, nous scrutons des galaxies et nous trouvons des galaxies qui basculent sur des galaxies, des étoiles sur des étoiles, et des milliards d'étoiles, au point de ne plus être en mesure de compter. Pourtant, si ces hommes avaient lu la Bible, ils auraient pu déposer leur crayon depuis bien longtemps. S'ils avaient lu le chapitre, 33 du livre de Jérémie, verset 22, ils auraient pu lire ceci, qu'on ne peut compter les étoiles dans le ciel, parce qu'elles sont aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Aucun homme ne comptera jamais les étoiles. Vous ne pouvez pas numéroter les étoiles pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y en a trop. La Bible n'est pas un livre scientifique, ce n'est pas de son but ultime, mais elle le fait à l'occasion, et quand elle le fait, c'est toujours comme nous venons de le voir, d'une façon magnifique. Deuxième raison qui m'a amené à croire que la Bible est la parole de Dieu, c'est la précision historique de la Bible. Une deuxième raison pour laquelle je crois que la Bible est la parole de Dieu, c'est non seulement à cause de sa précision scientifique, mais aussi à cause de sa précision historique. Même si ce n'est pas principalement un livre de science, mais un livre d'histoire, elle raconte l'histoire et toutes les choses qui, selon nous, ont eu lieu dans l'histoire. Je vais prendre un seul exemple. Il y en avait tellement, mais je vais prendre juste un seul exemple. Nous savons que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Certains érudits, tels que le Dr. Driver, linguistique et paléontologue, ont déclaré qu'il était impossible que Moïse ait pu écrire les 5 premiers livres de la Bible. Parce que les gens, à l'époque de Moïse, n'étaient pas censés être en mesure de ne pas savoir écrire. Les sceptiques se frottaient les mains. Ah, ils étaient contents. Puis un jour, dans le nord de l'Afrique, le Dr. William Petrie, au 18e siècle, un égyptologue en est, va découvrir des tablettes d'argile à Tel Armana, en Égypte. Ces tablettes étaient des lettres qui décrivaient certaines transactions commerciales qui avaient eu lieu entre les marchands égyptiens et palestiniens et qui concernaient des lettres échangées par les rois d'Égypte avec les grandes cours étrangères de l'époque, et ce plusieurs siècles avant la naissance de Moïse. Non seulement ces gens savaient écrire, mais en plus ils possédaient un système postal qui était peut-être mieux que le nôtre qu'on a présentement. Comme vous le voyez, il faut faire confiance au récit historique que nous retrouvons dans la Bible. La troisième raison pour laquelle je crois que la Bible est la parole de Dieu, c'est à cause de l'unité de ce livre. La Bible est en réalité composée de 66 livres qui forment finalement un seul livre. Son temps de composition s'étend sur une période de plus ou moins 1500 ans. Il y a plus de 40 auteurs, qui ont participé à sa rédaction. Ils ont vécu à des époques et à des conditions différentes. Et la plupart ne se sont jamais connus ni vus. Parmi eux, il y avait des rois, des bergers, des législateurs, des citadins, des paysans, des intellectuels, des juifs et un médecin d'origine étrangère. Et pourtant, l'ensemble, quand vous mettez tous ensemble, l'ensemble forme un tout cohérent et juste. Quand vous prenez les 66 livres, vous avez l'impression, même si ce ne sont pas les mêmes qui ont écrit chacun des livres, vous voyez que c'est le même esprit qui circule dans chacun des livres. Par comparaison, prenons 40 médecins contemporains qui ne se connaissent pas. Mettons-les dans des endroits séparés, demandons-leur de soutenir chacune thèse, par exemple, sur le cancer, ses origines, son traitement et sa guérison. Une fois que les 40 thèses réunies, eh bien, chers amis, on a toutes les chances de se retrouver devant 40 avis qui risquent d'être contradictoires. Ce qui n'est pas le cas avec la Bible. Comment expliquer cela? Je lis et j'étudie la Bible depuis maintenant 35 ans. Quand j'ai commencé à lire ce livre, je n'ai jamais trouvé de défaut caché. Au contraire, j'ai trouvé et je trouve encore des choses qui affermissent en moi de plus en plus ma foi en Dieu. Comment expliquez-vous le fait que la Bible possède cette unité? Parce qu'il y a à la base de la Bible un grand architecte, un esprit supérieur, l'Esprit de Dieu. Comment cette Bible peut-elle avoir été écrite en dehors de l'inspiration divine? C'est impossible. Quatrièmement, voici pourquoi je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu à cause des prophéties qui ont été annoncées et qui se sont accomplies. Lorsque vous lisez la Bible et les prophéties qui s'y trouvent, vous restez bouche bée. Le sujet de la prophétie est tellement vaste qu'il est pratiquement impossible d'approfondir tout le sujet ce soir. Ce serait comme essayer de vider l'océan avec une tasse de thé. Prenons par exemple le livre d'Isaïe. À plusieurs reprises dans le livre d'Isaïe, Dieu lance un défi aux voyants et aux médiums qui ont vécu à toutes les époques. Le prophète Isaïe écrit ceci au chapitre 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, dit Dieu, qui annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Quel défi lançaient ces astronomes qui n'ont même pas été capables de prédire un des plus grands événements qui est survenu en 1989, la chute de l'Union soviétique et du mur de Berlin. Tandis que des hommes conduits par l'Esprit de Dieu ont prophétisé dans le passé des choses, sur des choses précises, portant sur des noms, des dates et des événements qui surviendraient à court, moyen et long terme dans l'histoire de l'humanité. Les sceptiques disent que les prophètes ont eu de la chance, qu'il y avait une chance que ça arrive et qu'ils ont eu cette chance. Mais ont-ils eu juste la chance? Pardon. Où est-ce que Dieu leur avait révélé ces choses? C'est Blaise Pascal qui a établi la loi des probabilités. Je vais vous faire un petit calcul. Permettez-moi de vous donner un exemple. Si je prends 10 balles de ping-pong numérotées de 1 à 10, et je les pose dans un sac, combien y a-t-il de chances que je tire la balle numéro 1 du premier coup? Une chance sur 10, non? Oui, je te dis balle. Si je remets la balle numéro 10 dans le sac et que je vous demande combien de chances il y a pour que je pige la balle numéro 1 suivie immédiatement de la balle numéro 2, il n'y a déjà plus qu'une chance sur 100. Si je veux sortir les balles 1, 2, 3, l'une à la suite de l'autre, je n'ai plus qu'une chance sur 1000, c'est-à-dire 10 fois 10 fois 10 fois 10. Si je veux sortir les 10 balles dans l'ordre, une à la suite de l'autre, tenez-vous bien. Quelqu'un veut sortir un chiffre? Je n'ai alors aucune chance sur 10 milliards, c'est-à-dire aucune. Bonne chance pour ceux qui continuent à jouer à la loto. Quelle est la part de chance que nous pouvons attribuer aux prophètes et aux prophéties de la Bible qui ne sont pas au nombre de 10, mais au nombre de plusieurs centaines pour qu'elles s'accomplissent dans l'ordre tel que Dieu l'a annoncé? Qu'elles se produisent dans l'ordre, mais dans le temps, avec les personnes et les événements qui ont été annoncés. Parlons simplement des prophéties concernant le personnage central de la Bible, le Seigneur Jésus. Nous trouvons 300 prophéties qui parlent de lui dans l'Ancien Testament et qui se sont réalisées ou qui restent à se réaliser dans le Nouveau Testament. Dit que ces prophéties se sont réalisées et pratiquent par hasard est pratiquement impossible, comme nous le diraient les statistiques. Permettez-moi de vous en citer quelques-unes. 700 ans avant que Jésus vienne au monde, le prophète Michée a annoncé que Jésus viendra au monde à Bethléem. Et toi, Bethléem, petit entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Il ne parle pas de n'importe qui, puisqu'il situe celui qui dominera sur Israël. Combien de chances y avait-il, selon la loi des probabilités, pour que s'accomplisse cette prophétie, en sachant qu'il y avait au moins 1000 petits villages en Israël? Faites le calcul. Restons modestes, on va dire une chance sur 1000. 750 ans avant que Jésus vienne au monde, le prophète Isaïe prend le risque maximum. Il annonce que cet enfant qui devait naître, eh bien, naîtrait d'une vierge. Isaïe 7, verset 14, le Seigneur lui-même lui donnera un signe que c'est celui qui a annoncé qu'il va venir au monde. Voici la vierge viendra enceinte et l'enfantera un fils. Si j'avais dû prophétiser la naissance de Jésus, je n'aurais jamais choisi de prédire l'impossible comme Isaïe l'a fait, car humainement parlant, il n'y a aucune chance pour que cela s'accomplisse. Pourtant, lorsque vous interrogez certains biologistes, ils vont vous dire qu'il y a une chance sur 13 milliards pour qu'une vierge tombe enceinte. Permettez-moi d'en douter. Et cette possibilité serait tombée par hasard sur Marie. 500 ans avant Jésus-Christ, que Jésus vient au monde, le prophète Zacharie pousse encore plus loin la précision et prophétise l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, non pas sur un cheval de parade, ou sur un chameau, ou sur un char romain, ou sur un éléphant des Indes, ou à pied, ou dans une Mercedes de luxe, mais sur un âne. Il dit, pousse des cris de joie, Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est humble et monté sur un âne, le petit de Narus. 500 ans avant la venue de Jésus, le prophète Zacharie va prédire que Jésus. Et là, ça commence à être un petit peu, on commence à laisser moins le hasard. Hein. Zacharie va prédire que Jésus serait trahi, pas pour 50 pièces d'argent, mais pour 30 pièces d'argent. exactement la somme que Judas va verser au prêtre pour trahir Jésus. 500 ans avant Jésus-Christ. Il poursuit en disant que son courrier serait percé. On le sait très bien, même si on n'a pas une grande connaissance de la Bible, avec les récits et les films qui sont passés à la télévision, que Jésus a reçu un coup de lance dans son courrier. 500 ans avant, Zacharie avait prédit que Jésus recevrait un coup de lance. Bon, par combien faut-il encore multiplier les chiffres astronomiques de la loi des probabilités en utilisant la loi des probabilités que nous avons mentionnée concernant ces deux points? 1000 ans avant que Jésus vienne au monde, David décrit ce qu'il allait subir sur la croix en disant qu'il aurait les mains et les pieds percés. Ce qui nous surprend, c'est que la crucifixion était un supplice romain. Et à l'époque où David prédit ces choses, non seulement Rome n'existait pas encore, mais aussi ni la crucifixion. De plus, David va citer au verset 1 une parole que Jésus va prononcer lorsqu'il sera sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'était pas la première fois qu'on entendait cette phrase sur la croix. Elle avait déjà été prédite que Jésus prononcerait cette parole sur la croix. Elle est calculée avec la loi des probabilités. Les sceptiques disent que Jésus connaissait cette prophétie le concernant et qu'il aurait mentionné ces paroles afin qu'elles s'accomplissent. Si même on retenait cette idée, le fait reste qu'il fallait non seulement l'accomplir, mais parler d'un supplice inconnu en Israël, ni en avance, celui de la crucifixion. Si Jésus connaissait cette prophétie, les soldats romains, eux, ils ne la connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas la prophétie que David avait annoncée au verset 19, lorsqu'il parle d'eux, et qu'il dit, « Ils se partagèrent mes habits, ils tirèrent au sort ma tunique. » Ont-ils joué la tunique du Seigneur Jésus afin d'accomplir cette prophétie? Impossible, puisqu'ils ne connaissaient même pas les Écritures. Son regard dans le passé devrait suffire à démontrer l'inspiration divine des Écritures. Cela s'explique par le fait que Dieu a inspiré les prophètes, existe au-delà du temps et était déjà dans l'avenir pour le décrire. Cinquièmement, la Bible. Je pense que c'est le plus important. La Bible, depuis toujours, elle a le pouvoir de transformer le cœur de l'être humain. La Bible a le pouvoir de transformer le cœur de l'homme. J'ai rencontré le Seigneur Jésus il y a 35 ans. J'ai entendu parler de l'Évangile il y a 35 ans. Et cette rencontre, elle est marquante. C'est la plus grande rencontre que j'ai faite dans ma vie. J'ai entendu l'Évangile. Et le Seigneur, j'ai accepté ce message. Et je suis devenu un nouvel homme parce que Dieu, en Jésus-Christ, a transformé ma vie. Il m'a donné un nouveau cœur. Et il peut donner ce nouveau cœur à quiconque le veut bien. La cinquième raison pour laquelle je crois que la Bible est la parole de Dieu, c'est qu'elle a le pouvoir de transformer la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce que vous vivez dans vos vies personnelles. Il y a des gens que j'ai rencontrés pour la première fois, que j'ai salués avant la réunion. Et si vous êtes en recherche de quelque chose, si vous acceptez le message de l'Évangile avant de quitter cette rue ce soir, votre vie ne sera plus jamais, jamais la même. La seule chose que vous allez regretter, c'est de ne pas avoir entendu le message pur de l'Évangile avant ce soir. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de mauvaises expériences que vous n'avez pas vécues, et où il y aura peut-être beaucoup d'expériences, en fait, que vous vous seriez épargné aussi de vivre de vous-même. Permettez-moi de... Je lis ce livre depuis 30 ans, je peux vous dire qu'il ne ressemble à aucun autre livre. Nous lisons d'autres livres qui traitent de toutes sortes de sujets, mais ce qui est important, c'est que ce livre, il parle de vous et il parle de moi. Et ce, sans exception. Il parle de la nature de notre cœur et de la bonté de Dieu manifestée à travers la personne de Jésus-Christ. À la fin du 19e siècle, il y avait un vieux roi télé en Afrique du Sud qui pratiquait le cannibalisme avant d'entendre l'Évangile et qui arrêtait après s'être converti à Jésus-Christ. Il apprenait à lire l'Évangile traduit dans sa langue et un jour, il lisait péniblement dans ce livre, dans la Bible, il y a un blanc sûr de lui, la pipe au bec, qui lui dit, « Ne me dites pas que vous lisez encore ce vieux livre, il est passé. » Alors le vieux roi Télé le regardait et lui dit, « Monsieur, si je ne croyais pas que ce qui est écrit dans ce livre est la vérité, au lieu d'être devant moi fumer votre pipe, vous seriez déjà dans mon estomac. » Chers amis, oui, je crois à la Bible en raison des résultats qu'elle produit dans le cœur des hommes et qu'elle a produit dans le monde. Nous lisons que sa parole, elle est vivante, elle est efficace, C'est-à-dire qu'elle agit, qu'elle produit un effet dans la vie des êtres humains. Qu'elle produit un effet dans ma vie, qu'elle a produit un effet dans ma vie. L'apôtre Paul dit que l'Évangile est la puissance dont Dieu se sert pour sauver quiconque le veut. Non seulement l'Évangile est la dynamite de Dieu, mais elle est aussi comme une épée, elle est comme un feu, comme un marteau qui brise en morceaux les cœurs les plus durs. Elle peut briser le cœur le plus endurci qui soit. J'ai été témoin tellement de fois de la puissance qu'il y a dans cette parole. Elle est d'un grand réconfort pour celui ou celle qui souffre. Dans mon ministère pastoral, j'ai rencontré des gens qui étaient au bord du gouffre à cause de problèmes liés à l'alcool ou à la drogue. Et j'ai vu des gens avoir le cœur brisé à cause de déceptions amoureuses ou parce qu'on les avait carrément abandonnés. J'ai rencontré des gens qui vivaient dans une telle détresse parce qu'ils se sentaient seuls au point qu'ils étaient prêts à se laisser mourir, voire même à s'enlever la vie. En traversant la vallée de l'ombre de la mort, ils ont non seulement posé leur regard dans la parole de Dieu, mais ils l'ont serré contre leur cœur lorsqu'ils ont eu besoin d'aide, et ils ont pu renouveler ainsi leur force en Dieu. Ils ont crié à Dieu et Dieu leur a répondu. C'est ce que le psalmiste faisait lui-même à son époque. Il écrit « Quand j'étais dans la détresse, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. » Quelle belle parole. « Quand j'étais dans la détresse, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. » Dans sa grâce, Dieu leur a permis d'entendre ce passage de l'Évangile où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, de porter un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. » Puis Jésus, par la suite, trouver le réconfort qu'ils n'ont pu trouver ni par ailleurs ni autrement. Non seulement la Bible nous enseigne à vivre comme Dieu le demande, non seulement elle est un grand réconfort pour celui qui souffre, mais elle fortifie le cœur de celui qui la médite. J'aimerais simplement ouvrir une petite parenthèse, je l'avais pas marqué ici, mais cette semaine j'ai été vraiment touché, vraiment interpellé. Je pense j'étais avec Marie-Thérèse. On est allé chez un couple qui nous a parlé qu'il y a un homme qui était en pleine santé physique, qui avait en pleine santé mentale, et qui finalement a signé des papiers pour se faire euthanasier, parce que ses enfants n'allaient jamais le voir chez lui, il était toujours tout seul. Et j'ai appris cette semaine qu'on euthanasie maintenant à la maison, on n'est plus obligé d'aller à l'hôpital pour signer un document, et quand le médecin se présente, s'il y a le document en main, il peut passer à l'acte. Il a entendu l'Évangile. Il y a quelqu'un qui s'était vraiment un chrétien qui s'est occupé de lui dans les dernières journées de sa vie. Il a fait appel à deux médecins pour qu'on puisse euthanasier. Les deux médecins ont refusé. Il y a un troisième qui est venu, qui a accepté. Et quand le chrétien lui a parlé finalement de la valeur que représentait une personne aux yeux de Dieu, le médecin s'est mis à pleurer. Le malade qui se faisait euthanasier était en train de se faire euthanasier, pleurait. Mais ça n'a pas empêché le médecin de mettre fin au jour de cette personne. Euthanasie, c'est un beau mot pour culpabiliser, mais ça demeure quand même un suicide assisté. Tout ça parce que cette personne qui avait élevé des enfants, tout ça parce que ses enfants n'étaient plus visités, tellement ils se sentaient seuls, malheureux. Plutôt que de se faire enlever lui-même la vie, il a décidé de passer par les mains du médecin. Et ce chrétien était là au moment où il est décédé, et aussitôt qu'il est mort, les enfants couraient après les bijoux, après les accessoires de valeur dans la maison, même pas penser à l'enterrement du papa. Oui, on s'organise comment pour vendre la maison. Toi, tu prends quelle sorte de bijoux, moi je prends lesquels. Ok, toi, tu prends ça, moi la télé, moi je prends si je prends. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, on vit dans une société où la valeur d'un être humain, elle vaut ce qu'on permet à nos politiciens de définir. Vous pouvez lire la Bible, l'étudier, la méditer encore et encore, vous ne saurez jamais comprendre jusqu'à quel point elle est profonde. Parmi tous ceux qui ont déjà étudié la Bible, aucun ne dira qu'il a réussi à comprendre tout ce qui se trouve dans ce livre béni, parce que personne ne peut entièrement comprendre la pensée de Dieu. Je connais un homme de Dieu qui a quitté, qui est mort, qui est au ciel maintenant, qui nous a quitté il y a quelques années, quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, un autodidacte, qui méditait les Écritures, qui lisait les Écritures, qui a lu les Écritures pendant plus de 70 ans. Et avant de mourir, il a dit, je n'ai fait qu'effleurer la parole de Dieu. La Bible, c'est pas un roman. La Bible, c'est un livre extraordinaire. C'est pas pour rien que dans les années passées, dans les siècles passés, on a tout fait pour la faire disparaître. Pourquoi? Parce que Elle empêche les gens de rester esclaves de leur péché, de rester esclaves de ceux qui, de ce qui les empêche de vivre comme Dieu le veut, comme Dieu veut qu'ils vivent. Elle libère les gens. Et vous savez, les dictateurs, la seule chose qu'ils veulent pas, ou la seule chose qu'ils veulent, c'est de maintenir leur population en esclavage. Voilà pourquoi dans des pays où c'est fermé, où il y a des dictateurs, voilà pourquoi on ne laisse pas passer la Bible, parce que la Bible, quand on la lit, elle nous montre comment on peut être libéré. Libéré de tout ce qui nous écrase. Libéré du péché qui nous rend malheureux. Libéré de la peur de la mort. Libéré des craintes qu'on a face aux gens qui sont autour de nous. Libéré du lendemain, de la peur qu'on a du lendemain. Je vous invite en tout cas à lire la Bible, je l'ai dit avant de l'oublier. Si ce soir vous pouvez quitter cet endroit en ayant à cœur de pouvoir lire la Bible, et ça nous fera plaisir de vous donner une Bible gratuitement à partir. Il y a tellement de choses à comprendre, tellement de choses à apprendre. Quelqu'un a dit à propos de la Bible, cette parole est tellement profonde que même les plus instruits peuvent nager dedans et ne jamais toucher le fond. Et pourtant, combien est réjouissant de voir qu'un petit enfant peut venir y boire un verre d'eau sans crainte de se noyer. C'est la précieuse et sainte parole de Dieu. Chers amis, nous pourrions lui résumer la Bible dans un seul verset. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. La Bible, elle nous parle de la grâce de Dieu envers le pécheur. La Bible enseigne que Dieu aime le pécheur et qu'il veut le sauver. Vous savez, on est dans un siècle où c'est difficile de parler du péché, de parler de l'enfer, et ainsi de suite. Mais j'ai fait du porte-à-porte cette semaine. Il y en a un peu plus, Marie-Thérèse a des témoins. On n'a pas besoin de dire aux gens qui vivent dans le péché ou qui sont des pécheurs. Ils te disent, c'est eux qui te disent. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est eux qui te disent. C'est incroyable. Il y a une personne qui s'est déclarée athée, tu te souviens? Elle s'est déclarée athée, mais en fait, c'était juste pour fermer la porte. Hein. J'ai dit, mais comment en êtes-vous venu à devenir athée? Elle était coincée parce que ce n'était pas une vraie athée. Elle arrivait coincée de me répondre. Et elle me dit, je regarde ce qui se passe dans le monde. Et c'est normal qu'on soit découragé quand on regarde ce qui se passe dans le monde. Honnêtement, est-ce qu'il y a quelque chose d'encourageant dans le monde pour l'instant? Honnêtement. Heureusement qu'on n'est pas tous des dépressifs ici ce soir, parce qu'on risquerait de faire un suicide collectif. Hein. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, il n'y a rien d'encourageant. Et pourtant, c'est vraiment, on a commencé à parler du Seigneur. On a commencé à donner le témoignage que nous, ce qu'on vivait avec Dieu dans nos vies. Et à un moment donné, elle a dit, ben, merci Seigneur. C'est vrai. Elle a dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça sort de vous, j'ai un athée. Vous imaginez? Merci Seigneur. Et on a pu prendre un temps avec cette personne-là. Et en frappant aux portes, on voit comment les gens sont démunis. Comment les gens sont découragés. Et pourtant, cette parole, elle n'a pas été écrite dans le but de décourager les êtres humains. Elle a été écrite dans le but de non seulement de nous encourager, mais de nous dire que sur cette terre, il y a une vie à passer, et qu'après la mort, il y a une autre vie à entreprendre, et qu'on est sur la terre pour préparer notre éternité. Honnêtement, ceux qui sont assis ici ce soir, est-ce que vous êtes en train de préparer votre éternité? Vous savez, on vit dans un monde qui essaie de nous faire croire qu'on ne vaut pas plus qu'un chien ni un chat. Et quand on meurt, on creuse un trou qu'on nous enlève, c'est terminé. Mais ce n'est pas l'enseignement que la Bible nous donne. L'être humain est le summum de la création de Dieu. L'être humain est constitué de trois parties, un corps, une âme et un esprit. Et la Bible nous dit que quand l'être humain meurt, l'esprit retourne à son créateur pour rendre des comptes. C'est ce que la Bible que je prêche dit. C'est ce qu'elle enseigne. Et Dieu a tout fait pour éviter qu'on puisse lui rendre des comptes quand on va le rencontrer. Parce que qui serait prêt à lever la main ce soir pour dire que j'avais commis le péché? Qui serait capable de lever la main pour dire moi, j'ai jamais parlé mal de personne. J'ai jamais pensé du mal de personne. Qui serait capable de lever la main ce soir et dire moi, j'ai jamais pris même un centime à quelqu'un. J'ai jamais volé du temps à mon patron. Qui serait capable de lever la main? Si on est honnête, si on veut rester honnête, sans aucun esprit de condamnation, on est tous disqualifiés pour lever la main, n'est-ce pas? Mais c'est la bonne nouvelle. C'est qu'aux yeux de Dieu, personne n'est disqualifié. Parce que Dieu nous a donné la solution. Si nous, on n'est pas capable, si nous, on ne peut pas rendre des comptes, eh bien, il y a quelqu'un qui va donner un péché à quelqu'un qui va les prendre sur lui. Et quand on va comparer devant Dieu, eh bien, c'est la personne qui aura réglé la dette du péché. tu vas nous dire ce que t'as passé, parce que Dieu a accepté que je prie avec toi. Dans les quelques minutes qui restent, j'aimerais simplement que vous ouvriez vos cœurs au Seigneur, comme moi je l'ai fait il y a 35 ans. Personne ne va vous obliger à prendre une décision que vous pouvez comprendre ce soir. Mais j'aimerais vous amener à réfléchir et peut-être à prendre une décision. Ça va être vous, ça va être non, mais prendre la décision que j'ai prise il y a 35 ans qui a changé de vous personnellement. La Bible enseigne que Dieu aime le pécheur et qu'il veut le sauver. La Bible dit que nous sommes tous péchés, que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la présence de notre Dieu. En bon français, c'est que nous sommes tous des pécheurs, Dieu qui est saint, Dieu qui n'a pas de mal dans le cœur de Dieu, nous sommes privés quand nous mourrons dans notre paradis, dans l'état. Si on rentre au paradis dans l'état, ou si on se présente devant Dieu dans l'état dans lequel on est privé du paradis. Je tiens à vous dire que le paradis, ce n'est pas une histoire des enfants, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible que je prêche, et c'est un endroit fantastique. Je vous invite à lire les deux derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, c'est un endroit extraordinaire. Disneyland n'arrive pas à la chute de ce paradis que Dieu a créé. Un endroit où il n'y a plus de péché, un endroit où il n'y a plus de mal, un endroit où il n'y a plus de guerre, un endroit où il n'y a plus de pleurs, plus de larmes. Un endroit où Dieu est plus au ciel, il est avec nous, sur la terre, il règne avec lui. On va recevoir un nouveau corps, c'est pas extraordinaire ça? C'est pas extraordinaire? On a beau se faire remonter les visages, on a beau se faire remonter quoi? Tout ce qu'on veut, ça finit par retomber, n'est-ce pas? Il va retomber. Et Dieu va nous donner ce qu'on a dit d'appeler un corps qualifié. Un corps qui va être éternel. Un corps qui ne vieillira plus. Ça, c'est ce que Dieu promet. Ça fait partie de ses promesses. À tous ceux qui placent la personne de Jésus-Christ pour recevoir le pardon de leurs péchés. Et comment on sait qu'on va aller au paradis? Jésus n'est pas simplement mort sur une croix. Il est revenu à la vie, de la mort à la vie. Et la Bible dit que de la même manière que Jésus est revenu de la mort à la vie, de la même manière un jour, parce qu'il va y avoir un jugement dernier, de la même manière un jour, Dieu va nous ramener ici de la mort à la vie pour régner avec lui. Chers amis, vous pouvez essayer d'imaginer comment ça sera. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que Dieu est en train de préparer pour ceux qui ont placé leur confiance dans la personne de Jésus. L'assurance de pouvoir entrer au ciel n'est pas basée sur le bien que nous avons fait dans notre vie, mais sur la bonté de Dieu. Pourquoi? Il n'y a aucune bonne action, aucune bonne œuvre que nous pouvons faire qui peut effacer un seul de nos péchés. La Bible nous dit que seul le sang qui a été versé à la croix par Jésus efface tous nos péchés. Et ça élimine tout de suite toutes les religions qui nous laissent espérer qu'on puisse entrer au ciel grâce aux bonnes œuvres qu'on a faites. Si nous affirmons que Jésus est le Seigneur, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, verset 9, si nous affirmons que Jésus est le Seigneur, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, nous serons sauvés. C'est-à-dire que nous avons la certitude que tous nos péchés sont effacés et que nous passerons l'éternité au paradis. N'est-ce pas ce que Jésus a promis à un des deux malfaiteurs sur la croix? Et j'aime bien prendre cet exemple. Parce que le malfaiteur sur la croix, il détruit toutes les religions qui nous demandent de faire beaucoup d'efforts pour essayer de rentrer au ciel. Les deux, c'est lui qui connaît, qui ne connaît pas l'histoire des deux malfaiteurs sur la croix? Il faut que je la rende. Lorsque Jésus, le jour où Jésus est crucifié, on place, il y a un malfaiteur qui est crucifié aussi à sa droite et à sa gauche. Jésus, la Bible nous dit qu'il était sans péché et qu'il est devenu péché pour nous, afin que nous puissions devenir les bénéficiaires de l'œuvre qu'il va accomplir à la croix pour vous et pour moi. Ces deux-là, ce n'est pas deux gars qui font partie de la petite paix de la place. Pour aller sur la croix, c'est des gars qui ont quand même une vie assez chargée au niveau criminel. Ils sont sur la croix. Au tout début, la Bible nous dit que les deux, ils sont en train, ils insultent Jésus. Ils insultent Jésus. Mais dans le livre de Luc, eh bien, voici ce qui se passe. Jésus va promettre quelque chose à un des deux malfaiteurs. Il y en a un qui va voir l'attitude de Jésus. Peut-être qu'il en a fréquenté la synagogue à l'époque. et qui avaient quitté la synagogue, comme il y en a qui quittent l'église, pour aller dans le monde. Il a rencontré des mauvais amis, et puis finalement, il a tourné comme il a tourné, pour se retrouver sur une croix à côté de Jésus. C'est possible. La Bible ne dit pas que c'est possible. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il y a une étincelle, puis on dirait qu'il connaît les Écritures. Regardez bien. L'un des malfaiteurs suspendus sur la croix insultait Jésus en disant « Hey, tu n'es pas le sauveur, mais tu n'es pas le Messie. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Ça, c'est mauvais. Mais le deuxième malfaiteur lui fit le reproche. Il lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi? Toi qui subis la même punition que lui. Pour nous, cette punition, elle est juste. » Donc, il reconnaît qu'il a commis des péchés. Il dit « Pour nous, on reçoit le châtiment qu'on mérite. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Puis il ajouta Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme le roi. Jésus lui répondit, je te déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce malfaiteur ne pratiquait aucune religion. Il ne semble-t-il pas être quelqu'un qui est bien tourné dans sa vie, mais il ouvrait la bouche et confessait qu'il n'était pas un pécheur et celui-là lui ouvrait les portes. Pas compliqué avec la parole de Dieu. C'est les religions, les philosophies qui complètent les histoires, qui complètent les choses. Ce salut en Jésus est un don que Dieu nous fait. Et comme tous les cadeaux, comme tous les dons, le pardon des péchés nous est offert gratuitement et il vous garantit la vie éternelle. Car c'est par la grâce de Dieu que nous sommes pardonnés de nos péchés et acquittés du jugement à venir. Et ce, au moyen de la foi. C'est pas grand-chose, hein? Seulement au moyen de la foi. Le moyen de la foi. Croire que ce que je suis en train de vous dire, c'est dans la parole de Dieu. Croire que ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ce que Dieu veut vous amener à faire, à prendre comme décision une fois dans votre vie. Reconnaître qu'on est pécheur. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on est adulte, c'est difficile de se faire dire écoute, t'es pas correct. Déjà, ça passe mal avec les enfants, c'est vrai, hein? Ah non, moi, c'est pas moi, maman, c'est. Et Dieu dit, moi, mais toi aussi, t'es dans le groupe. Non. C'est pas facile comme adulte d'avouer. C'est pas facile d'avouer qu'on a tort. C'est vraiment pas vrai. Facile. Mais Jésus dit, si t'es capable de t'humilier, pas que moi je vais t'humilier, mais si t'es capable d'avoir un petit peu d'humilité, et de reconnaître que t'es pécheur, de reconnaître que quand Jésus est mort sur la croix, il y avait ton nom dans sa tête. Il savait que tu viendrais venir d'ici le 21e siècle. Il avait ton nom dans sa tête et il est mort pour toi. Et si tu avais été le seul pécheur sur la terre, il serait quand même parti du ciel pour venir sur la terre pour mourir pour toi. Et Jésus dit, rappelle-toi que quand j'étais sur la croix, j'avais ton nom et que je t'aime et que je suis mort pour toi. Et si vous croyez, vous acceptez que Jésus était sans péché, lui, l'homme parfait, qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort, a pris sur lui vos péchés, et en retour, qui vous donne sa justice. La Bible est claire, vous passez de la mort spirituelle à une nouvelle vie. Vous passez de la mort spirituelle à une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, vous ne la passerez plus jamais tout seul. Parce que la promesse que Dieu vous fait, c'est qu'il va vous envoyer son esprit, l'esprit de Christ qui va venir habiter en vous. Et là, à partir de là, les gens vont vous regarder et vont dire, t'as bien changé. Moi, ma famille, elle m'a dit, j'ai bien changé. J'étais mouton moi dans la famille, et on m'a dit qu'on m'aimait mieux avant. Maintenant, j'étais étranger, laissé tranquille, mais on m'a dit, non, on m'aimait mieux avant. Je connais des gens qui ont arrêté de boire quand ils ont rencontré le Seigneur, et on leur a dit, ben, on t'aimait mieux avant. Oui, avant, on se moquait d'eux. Avant, on pompait de l'argent. Et on se sentait supérieur quand quelqu'un voulait sur la terre parce qu'il était sous. Et moi qui leur faisais des misères dans ma famille, à mes six frères et ma soeur, et on me dit, on t'aimait quand même mieux avant. Pourtant, ils chassaient avant. C'est pas pour les mêmes raisons. Ils en avaient ras le bol de me voir, parce que je les faisais souffrir. Et là, je commence à comprendre l'amour de Dieu que j'ai découvert dans ma vie. Ouais, mais ça. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas accepté cette justice de Jésus? Une seule et unique raison. Parce qu'ils ne veulent pas renoncer à la vie qu'ils mènent présentement. Pour accepter la nouvelle vie que Dieu leur offre en Jésus-Christ. Il n'y a pas 56 raisons. On a un train de vie, on a une certaine habitude de vie, on a peut-être un péché qu'on aime bien, et là on reçoit cet appel de l'Évangile où Jésus dit, viens à moi. Laisse tomber, viens à moi. Et tu vas découvrir une nouvelle, tu vas avoir un nouvel horizon de vie devant toi. Et là, on regarde. Et là, on se dit, ah oui, ça j'aime bien ça. Ah, ça j'aime bien. Ah oui. Et là, c'est assis. Hein. Rapidement, je vais vous raconter l'expérience. Moi, j'étais assis comme vous un soir. J'étais dans une église. Et on a entendu l'évangile comme ça. Et à un moment donné, le prédicateur, il a fait la même chose que j'ai fait, que je fais avec vous. À un moment donné, il a annoncé l'évangile et à la fin, il a fait un appel. Alors, il a dit, tous ceux qui veulent accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils ont la main. Moi, j'ai mis la main. Facile de lever la main, hein. Je sortirai un pistolet, je crois que tout le monde lèvera la main. Facile de lever la main. Et moi, j'étais assis à une chaise, et j'étais, il y avait 700 personnes dans cette salle-là. Et moi, j'étais plein milieu. Et là, il y a plusieurs mecs qui se sont levés, et là, il a dit, maintenant, ceux qui ont levé la main, avancez-vous en avant pour prendre publiquement une décision.
Ah!
Moi, j'étais un homme d'affaires, hein. Et quand les gens payent cash, je signais la facture promotion, je voyais le gouvernement parce que je réclamais cet argent-là de promotion à la fin de l'année sur le rapport d'impôt, et je mettais l'argent dans mes poches en plus. Et là, j'étais assis sur la chaise, et là, une petite voix qui me disait, pense à tout ce que tu vas perdre si tu vas ce soir. Pense à tout ce que tu vas perdre. Ça peut être facile. Ça peut être facile, non? Parce que le diable vient te chuchoter, tu vas finir par tomber pauvre si tu prends cette décision-là. Voulez-vous que je vous raconte quelque chose? Je me suis avancé ce soir-là. Dieu m'a honoré. À partir de ce moment-là, je faisais le double d'argent que je faisais là-bas. La truc est grave. Quand on prend une décision concernant Jésus, on est loin d'être épargnant, on est des gardes avec Jésus. Je vais faire un appel tantôt. Peut-être que là où tu te trouves, peut-être que déjà tu penses à quelque chose que tu pourrais perdre. Laisse-moi te répéter qu'avec Jésus, on n'est jamais perdant. Jamais perdant. On est gagnant. Parce qu'on gagne le droit de devenir un enfant de Dieu. Parce qu'on gagne le droit de devenir un héritier du royaume de Dieu. Parce qu'on gagne le droit un jour de régner avec Dieu sur cette nouvelle terre et c'est nous aussi qui va créer. Quand nous sommes malfaiteurs, nous devons nous repentir de nos péchés et placer notre confiance en Jésus-Christ pour recevoir le pardon de nos péchés. Seul Jésus qualifié pour que nous méritions d'entrer au ciel. En donnant sa vie sur la croix pour nos péchés, il a pris sur lui la condamnation que nous méritions pour nos péchés. Mais parce que nous croyons dans ce sacrifice, Dieu nous rend juste devant lui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand on enlève un chrétien, on a de la peine parce qu'on va être top pendant quelques années, après qu'il nous reste à vivre. Mais au plus profond de nous-mêmes, il y a quand même une petite joie qui est là parce qu'on sait qu'on est revoir. En tant que chrétien, on sait que la mort, ce n'est pas la fin de tout, mais c'est le début d'une nouvelle vie avec Dieu. C'est différent, à au-delà. Et aussi, on a cette espérance, parce que c'est la Bible qui le dit, Dieu va mettre fin un jour à ce qu'on vit dans le monde présentement. Il y a des limites à voir tous les abus qu'il y a dans le monde présentement. Il y a des gens qui souffrent à cause du péché. Il y a des gens qui souffrent à cause de la méchanceté des gens. Et tôt ou tard, Dieu va intervenir comme il l'a fait dans le passé. Mais ce qui est important pour vous ce soir, quand vous entendez l'Évangile, Dieu vous aime. Et Dieu veut que vous fassiez partie, vous invite à faire partie de son royaume. Je vous invite en terminant à incliner la tête. Simplement incliner la tête et fermer les yeux. C'est très personnel ce que je vais faire comme appel, comme on a fait dans ma vie il y a 35 ans. Si vous voulez recevoir le pardon de vos péchés et être sauvé du jugement à venir ce soir, je vous invite à prononcer cette prière avec moi dans votre cœur. Seigneur Dieu, je sais que tu veux me sauver et je reconnais que j'ai péché contre toi. j'ai vécu pour moi-même jusqu'à aujourd'hui, et je voudrais dans le futur m'appliquer à vivre comme cela demande. Merci d'avoir payé sur la croix le prix exigé par la loi pour que mes péchés soient effacés en mourant pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts le troisième jour, et que quiconque croit en toi est déjà passé de la mort à la vie. Seigneur Jésus, je te remets ma vie. Viens dans mon cœur, pardonne mon péché, sauve-moi Jésus, et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je te donne entièrement mon cœur, parce que je te fais confiance à partir de maintenant. Amen. Eh bien, Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions avoir la certitude de l'écouter dans sa grâce durant les hommes justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui est libre du péché. Dieu a offert un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur des hommes qui croient en lui. Dieu nous a montré à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Dieu n'a pas attendu que nous devenions des bonnes personnes par son Fils, parce que des bonnes personnes, c'est pas ceux-là qui vont rentrer au ciel, puisque Jésus a déjà dit à des prêtres, les collecteurs d'impôts qui étaient considérés comme des voleurs à l'époque, et les prostituées vont précéder dans le royaume de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de bonnes personnes qui rentreront au ciel. Il y a beaucoup de pécheurs qui auront confessé, qui sont perdus sans Jésus-Christ, qui vont aller voir rentrer. Et ce que vous avez fait ce soir, vous faites partie de ce groupe, comme moi je fais partie du groupe. Vous n'êtes plus des pécheurs aujourd'hui, vous êtes maintenant des enfants de Dieu qui avaient la capacité de toujours pécher, et vous êtes des enfants de Dieu. Amen.
Amen.
Que Dieu vous bénisse en vous donnant merci.